y a des gens bien, il y a du café gratuit et il y a surtout de la bonne musique. Et faut pas oublier la fréquence.
88.3
Campus, la radio sur le 88.3 FM.
Elle baisse le son.
Mais faudra nous donner 1000 francs et des nouveaux, hein.
Écoute ta fac. Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là ?
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission Écoute ta fac sur Radio Campus Orléans. Il est midi et aujourd'hui j'espère que vous êtes toutes et tous prêts à passer l'heure en notre compagnie. J'ai autour de cette table, comme tous les jeudis, mes meilleurs chroniqueurs. En premier temps, Antoine nous parlera des dernières actualités internationales avec les élections russes qui se sont tenues le 15 et le 17 mars. De mon côté, je vous ferai un point sur le plan national avec la plateforme Mon Master. On passera avec Ludo qui nous fera une analyse sur la série Fleabag. Et enfin, on passera à l'instant littérature avec Chris qui nous parlera du sentiment amoureux dans les romans. Ensuite, pour continuer l'émission, on retrouvera Nico pour un peu plus de légèreté avec un jeu concocté spécialement par lui pour faire agrandir votre discographie. Et pour clôturer cette émission, il sera là temps à la fin de vous faire partager les recommandations de la semaine par nous tous.
Midi 13h, écoute ta fac.
Mais pour commencer cette émission comme il se doit, j'ai avec moi Antoine. Tu as décidé de nous parler des élections en Russie et sur la réélection, sans surprise, de Vladimir Poutine. Dis-nous en plus.
Alors bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des élections russes qui se sont tenues du vendredi 15 au dimanche 17 mars. Donc après des mois de campagne électorale passionnée, le peuple russe s'est rendu aux urnes pour choisir son prochain dirigeant. L'élection de 2024 a été particulièrement scrutée alors que le pays cherche à définir sa trajectoire politique dans un contexte mondial complexe. La campagne électorale a été marquée par une concurrence féroce entre plusieurs candidats, reflétant la diversité des opinions et des visions pour l'avenir de la Russie. Le président sortant, Vladimir Poutine, dont le mandat s'est étendu sur plusieurs décennies, a décidé de se représenter. Le jour du scrutin a été marqué par une participation massive démontrant l'importance accordée par les Russes à leur droit de vote et à l'avenir de leur nation. Les bureaux de vote ont été ouverts dans tout le pays et les électeurs ont eu l'occasion de faire entendre leur voix dans ce processus démocratique crucial. Pour vous donner un ordre d'idée, après le dépouillement de 98% des bureaux de vote, Vladimir Poutine a brigué un cinquième mandat présidentiel jusqu'en 2030, recueillant plus de 87% des suffrages avec un taux de participation officiel supérieur à 74%. Seul Stéphane Bern a réussi à faire mieux en se faisant élire dans son village de Tirongardé avec 97,3% des suffrages. Vladimir Poutine a ainsi été élu en 2004, 2012, 2018 et donc 2024. Entre-temps, en 2008, il a dû laisser la main à son premier ministre Dmitri Medvedev, puisque la constitution russe de l'époque l'empêchait de se présenter une troisième fois de suite. Il est alors élu jusqu'en 2030 et pourrait même se faire élire jusqu'en 2036 et il battrait alors le record de longévité à la tête de l'État russe devant Staline. Trois autres candidats ont été autorisés à participer au scrutin, aucun n'opposant frontalement à la politique du Kremlin ou à l'offensive en Ukraine ou encore à la répression contre toute voix dissidente. Le seul réel opposant à avoir tenté de se présenter contre Vladimir Poutine, Boris Nadjedine, a vu sa candidature rejetée. Depuis hier, des enquêtes des médias russes indépendants font état de fraude électorale. Environ 22, voire 23 millions de bulletins officiellement en faveur de Vladimir Poutine ont été falsifiés, assure Medusa, le site russe de journalisme d'investigation. Un total qui correspond à près de 50% de l'ensemble des voix qui se sont exprimées en faveur du président, d'après la commission électorale centrale. Avant et pendant le scrutin, l'administration a ainsi été massivement déployée pour doper la participation. Partout dans le pays, les pressions et les surveillances ont été multiples. Dans les administrations locales et les entreprises publiques, les dirigeants devaient envoyer des rapports précisant qui a voté et quand. Les observateurs, eux, ont été réduits au minimum. Golos, l'ONG spécialisée dans les élections, a été interdite. Plusieurs observateurs indépendants ont été interpellés alors que circulaient sur les réseaux sociaux les premières vidéos démontrant des bourrages d'urnes. Certains observateurs ont eu le temps et la chance d'observer un dépouillement. Figurez-vous qu'ils n'ont pas eu besoin d'énormément de temps car le dépouillement s'est fait en moins de 14 minutes dans les banlieues de Moscou. Dans certains bureaux de vote, il y a une participation record, voire presque fictive. En effet, il y a eu plus de votants que d'inscrits sur les listes électorales. Je ne suis pas fort en maths, mais on voit bien le problème. Et à chaque fois, c'est Vladimir Poutine qui en profite. Autre méthode de fraude utilisée, le transfert de voix d'un candidat à l'autre, l'autre étant Vladimir Poutine. Par exemple, au moment de l'officialisation des résultats, dans un des bureaux de vote de Saint-Pétersbourg, une centaine de voix a disparu du décompte de Vladislav Donkov pour se retrouver comme par magie sur le décompte de Vladimir Poutine. Vladislav Donkov, arrivé troisième, est le seul candidat qui s'est fait voler le plus de voix. Selon Golos, il aurait dû obtenir 11% des voix et terminer deuxième de la présidentielle. Donc cette fraude à grande échelle s'inscrit dans la continuité politique de Vladimir Poutine qui se voit rester au pouvoir pendant encore de très nombreuses années. Ma chronique n'est pas totalement finie, et c'est là que je vous pose une question à tous. Soyez sincères, est-ce que vous avez marqué quelque chose de bizarre dans ma chronique ou de mal formulé ?
Dans quel sens ? Comment ça ?
Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma chronique qui vous a peut-être surpris ou des mots que j'ai utilisés ?
T'as bégayé, ouais.
Ça, c'est normal. Non, vous voyez rien ?
T'as parlé de ChatGPT ?
De quoi ?
T'as parlé de ChatGPT ?
Non.
T'as dit des noms en rue jusque-là, j'ai pas été choquée.
Eh ben si, je vous disais maintenant que toute ma première partie de chronique a été rédigée à l'aide de ChatGPT. Est-ce que voilà, vous me croyez ou pas?
Bah,
oui, t'as
pas,
juste lu mon, t'as juste lu mon, ma feuille que j'ai entre les yeux.
Ouais, ouais, carrément, ouais.
En fait, toute ma première partie de chronique jusqu'à l'annonce des résultats sur le taux de participation et le dépouillement de 98% des bureaux de vote, tout ce qui a été fait avant a été écrit par ChatGPT et j'ai dû le reformuler.
Même Stéphane Bern.
T'es un fainéant, non, en fait.
Stéphane Bern, c'est moi.
Ah, ok.
C'était ma petite blague.
Oui,
voilà.
Je me disais.
Et non, pas du tout. C'était pour voir. Non, parce que j'ai eu l'idée avant et j'ai dû reformuler ChatGPT parce que ChatGPT me disait que Vladimir Poutine ne se présentait pas à la présidentielle et que du coup ça ouvrait la voie à un pluralisme politique en Russie avec une montée de la démocratie et que Vladimir Poutine allait adouber son successeur.
ChatGPT est contrôlé par les Russes ou pas ?
Eh ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc c'était.
Non mais ça. Quand tu lui demandais, donne-moi, enfin, explique-moi.
L'intitulé du mot, je lui ai dit, fais-moi un résumé. Non, fais-moi une chronique radio sur les élections russes présidentielles de 2024.
Ça, c'est parce que tu l'as fait hier à 23h30, ça.
Oui, mais les résultats étaient déjà proclamés. Les résultats étaient déjà proclamés. On savait déjà que Poutine était
président. Il y avait déjà de l'information sur Internet.
Et les fraudes étaient déjà sorties. Mais ChatGPT m'a dit. Poutine ne se présente pas, il y a plusieurs autres candidats qui vont se présenter.
C'est-à-dire que ChatGPT se nourrit de fausses informations et qui ressort de fausses informations.
Et voilà, et donc c'était un peu le lien que je voulais faire avec les Russes. Parce que du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un bon moyen de faire un lien avec l'actualité. Quand on voit surtout ces derniers jours, les fake news et les fausses informations qui ont circulé et qui viennent probablement de Russie sur la famille royale. Tout ce qui a concerné la diffusion de fausses images, la mort de Charles III, l'abdication, toutes les rumeurs qui entourent Kate et William. Donc voilà, c'était un peu le parallèle que je voulais faire.
Je vous ferai une chronique sur les IA bientôt.
J'en ai déjà fait une après.
Pour décrypter tout ça. Ouais, mais je peux en refaire une.
Et donc voilà, c'était pour vous sensibiliser un peu qu'il faut faire attention. Il faut faire attention un peu à ce qu'on voit circuler.
Tu croises l'actualité avec les IA et l'actualité aussi avec les élections russes.
C'est ça.
Là, tu nous fais un petit package.
Donc voilà.
Merci.
Toi, tu fais des liens, toi.
Merci Antoine pour ta chronique. On va poursuivre cette émission en musique avant de passer à ma chronique sur la plateforme Mon Master. À tout de suite.
Et place à Eya Ronen avec son titre Tekton.
This rope and hope for my mom to come get me up in the air.
On est de retour sur l'émission Écoute ta fac. Nous avons avec vous une Luna. Mon master a ouvert depuis le 26 février 2024 et la plateforme continue de faire réagir sur ces nombreux dysfonctionnements.
Et oui Antoine, lancée en février 2023, la plateforme Mon Master était annoncée comme la nouvelle réforme du gouvernement en matière d'éducation supérieure. Le site était censé moderniser les candidatures des masters pour les étudiants. Pour pouvoir être éligible, il fallait donc obtenir au minimum une licence ou autre diplôme permettant d'accéder au cursus master, qu'il soit français ou bien ressortissant de l'espace économique européen. La plateforme Mon Master, c'est plus de 3500 formations et 8000 parcours proposés par les établissements publics, mais aussi privés, s'ils sont en convention avec un établissement privé. Le but de cette réforme, permettre à ce site de centraliser et d'organiser les calendriers d'inscription pour le master. Car oui, auparavant, il fallait s'inscrire au master que l'on souhaitait sur le site de l'université et de la formation spécifique. Des calendriers d'inscription qui différaient selon les universités et donc cela provoquait non seulement du stress pour les étudiants, mais aussi une mauvaise organisation administrative. Déjà 2 ans que la plateforme Mon Master a ouvert, on peut donc voir de manière rétrospective ses qualités comme ses défauts. L'année dernière, c'est plus de 173 000 candidats ayant postulé aux offres en formation initiale et en alternance. Le même nombre est prévu pour cette année 2024 avec environ 185 000 places ouvertes. Mais si pour l'instant, il y a plus de places que de demandes, des statistiques montrent que cela pourrait rapidement changer. En effet, on voit une nette montée du nombre d'étudiants en troisième année de licence depuis 2019, alors que le nombre d'étudiants en master ne fait que baisser selon un graphique de Libération. Le nombre de places en M1 diminue donc, car la sélection ne se fait plus entre le M1 et le M2 comme avant, mais bien à la fin de la L3. En effet, la sélection en M2 a été jugée illégale par le Conseil d'État en 2016. La seule possibilité est donc une sélection à l'entrée de la première année de master, selon Julien Gossa, maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Déjà 2 ans que la plateforme Mon Master a ouvert ses portes et des revendications sont de plus en plus visibles, notamment sur les réseaux sociaux. Le hashtag étudiants sans master exprime la colère des étudiants au refus qui sont, pour certains, jugés peu légitimes au vu des parcours et des motivations des élèves. Le site Vite Mon Master, créé par Lou Bensoham, étudiant en master à Sciences Po, met en lumière la baisse du nombre de places, particulièrement sur les filières en tension. L'étudiant demande l'ouverture de places d'urgence pour fluidifier le système de candidature. De nombreux étudiants font donc face aux problèmes qui subsistent sur la plateforme Mon Master. En témoigne Kylian, 21 ans, actuellement en année de césure. Pour lui, même si le site internet est relativement simple avec une liste de parcours assez claire, il reste néanmoins peu ergonomique, notamment avec la recherche par carte qui nécessite des zooms et des clics sans grande fluidité. Sur le plan administratif, la plateforme demande de recréer un dossier alors même que des milliers d'étudiants ont eu à le faire l'année dernière. Sur les demandes des masters, même si beaucoup demandent une simple lettre de motivation, certaines formations rajoutent d'autres documents, comme des lettres de projet professionnel ou des lettres de projet de recherche, des démarches qui restent différentes selon les formations, alors même que la plateforme voulait unifier les demandes. La plateforme Mon Master est donc pour le moment encore en voie de perfectionnement. Elle ne semble pas encore aboutie, alors que les candidatures ont ouvert depuis le 26 février et sont jusqu'au 24 mars, cela laisse aux étudiants qui nous écoutent plus que 3 jours pour pouvoir peut-être accéder à une formation master pour septembre.
Merci Luna, je me tourne vers les chroniqueurs sur ce plateau. Si vous avez connu la plateforme Mon Master, quel est votre retour d'expérience sur ce site ?
Ludo ? Moi j'ai un peu comme ce que l'étudiant a dit dans la chronique, c'est vrai que c'est assez accessible en termes, visuellement, graphiquement. On peut taper les masters qui nous intéressent et ça nous en affiche beaucoup. Le seul problème, et que moi j'ai eu notamment, c'était au niveau de la confirmation des choix. D'ailleurs, j'ai eu un problème justement pour venir ici. C'est que je pensais qu'on pouvait mettre les choix dans une espèce de liste et que quand on confirmait un choix, si on annulait, ça n'annulait pas les autres auxquels on avait été pris. Et donc Orléans, je l'avais mis en fait en, entre guillemets dans ma tête en second choix. J'en avais confirmé un autre en pensant que je pourrais changer après et garder Orléans. Or, une fois que j'avais confirmé, ça avait annulé tous mes autres choix. Et donc ensuite, j'ai dû rappeler l'université d'Orléans pour leur dire que finalement, je voulais rester avec eux, etc., que j'avais eu besoin de temps pour réfléchir. Et on m'a dit au téléphone qu'il y avait eu beaucoup d'autres étudiants qui avaient eu ce problème-là au niveau de la confirmation, qui n'était pas très très clair, je trouvais, sur leur site lorsqu'on devait confirmer ses choix. Enfin, peut-être que c'est que moi, mais visiblement, non. Vous, je ne sais pas trop ce qui vous a choqué, mais je suis curieux.
Il me semble qu'il y avait une histoire de délai aussi, que passer trois jours d'attente sur le vœu, ton vœu était automatiquement supprimé pour, entre guillemets, laisser la place à quelqu'un d'autre.
Je crois que c'est deux jours même.
Deux jours ou trois jours, il me semble. Mmh. Donc du coup, ceux qui avaient une validation et qui voulaient attendre leur premier choix se libérer, ils se faisaient avoir, ils se retrouvaient du coup sans vœu parce que des fois, leur premier choix pouvait être pris.
Oui, bon.
C'était ça le souci, en effet. Quand on était pris, par exemple, à un master qui nous intéressait plus ou moins, mais qu'on avait notre préférence où on était en liste d'attente, on espérait que cette liste d'attente diminue pour pouvoir être pris, mais sauf qu'en fait, si ça prenait trop de temps, les autres vœux où on était acceptés allaient s'annuler. Et c'était encore pire avant le site Mon Master, puisque étant donné qu'on devait déposer notre candidature sur chaque formation, donc de chaque université, les universités avaient chacune leur date où elles donnaient leur acceptation ou quelle position on avait par rapport à la formation. Donc c'était encore plus pire parce que, par exemple, tu pouvais avoir l'université de Bordeaux qui te disait « Ah, mais voilà, je t'ai dit que tu étais accepté dans ma formation, viens ». Et toi, tu espérais rentrer dans l'autre université, par exemple, je dis n'importe quoi, de Nanterre. Et à ce moment-là, tu avais un blocage entre les deux universités qui n'avaient pas du tout la même logique. Et tu étais obligé de demander d'attendre encore plus de temps. Et ça débouchait sur des problèmes de manière administrative.
Moi, je suis, j'ai connu ça sur mon master l'année dernière.
T'es en plein dedans,
Comment ?
T'es en plein dedans actuellement, là.
Non, il candidature maintenant pour les M2.
Ah oui.
Mais je voulais dire quoi ? Oui, je voulais dire que en fait, j'avais eu la même problématique sur un master en M2 à Rennes, un master M1 à Rennes et un master ici à Orléans. Et sous le coup de la pression, au bout d'un moment, tu te dis j'attends, mais tu sais pas si derrière à Rennes ça va se libérer ou pas. Donc t'es un peu forcé de prendre de faire un choix.
Ouais, de prendre une décision.
De prendre une décision et qui n'est pas forcément la bonne, etc. Donc c'est vrai que ça met un peu la pression sur les élèves. Et oui, juste une deuxième parole, dirais-je plutôt, c'est parfois quand vous allez postuler à un master, vous pensez que vous avez déjà rentré toutes les informations, donné tous les documents utiles à l'inscription, mais en fait pas du tout. Par exemple, sur certains masters d'histoire, de recherche, en fait vous devez effectuer une recherche en amont. Par exemple, on vous demande quel serait votre sujet de thèse.
Oui, à l'université d'Orléans, ils font ça ici.
Voilà, et exactement. Et moi, je ne savais pas du tout, et comme moi, je m'y prends toujours un peu tard, je procrastine très souvent, je me suis retrouvé un peu ne sachant pas quoi faire, ne sachant pas quoi écrire.
Et oui, parce que ton projet de recherche, tu peux, si tu postules un master recherche, tu le travailles pendant ton année, pas avant.
Oui, c'est ça.
Après, tu peux faire une lettre en disant, il y a tel thème, tel sujet qui potentiellement m'intéresse, mais je n'ai pas encore fait mon choix et je compte réduire plus tard. Mais pour moi, le donner maintenant, non, ou en tout cas le donner sur la plateforme, je trouve ça en trop, que le professeur te contacte après après les résultats pour te dire, est-ce que tu as une idée, est-ce que tu peux me la transmettre par mail ? À la rigueur, ça se fait. Mais pour moi, la plateforme devrait juste se maintenir à un CV, lettre de motivation, et je crois qu'ils demandent juste ça.
Oui, c'est là. Là, ils demandent la thèse, résumer la thèse, et de la bibliographie aussi. Oui, du mémoire.
Pour le master, c'est un mémoire.
C'est beaucoup trop.
Oui, pour moi, ça devrait être vu en direct avec le prof.
Je suis d'accord.
Alors après, ça sous-entend, en tout cas, les masters qui demandent, pour certains, une lettre carrément de une lettre de motivation plus une lettre de projet professionnel ou une lettre de sujet de mémoire, ça montre clairement que implicitement on demande à l'étudiant de faire des recherches par lui-même, de contacter les professeurs ou en tout cas les maîtres de conférences. Donc il y a une demande d'autonomie implicite, mais en même temps en master, est-ce que on doit pas est-ce que on nous attend pas aussi une certaine autonomie et une certaine indépendance?
Ah oui. Oui, non mais faut juste communiquer, je pense.
Surtout le sujet, c'est que certaines personnes peuvent pas forcément avoir des notes excellentes, mais avoir un sujet de mémoire qu'ils ont bossé, etc. Et ça se voit sur la lettre de motivation, et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils vont être pris, plus que quelqu'un qui a peut-être 14-15 de moyenne générale, mais qui a pas d'idée et qui attend un petit peu qu'on lui donne un sujet et qui est pas du tout autonome là-dessus. Donc ça peut peut-être aussi peser la balance sur quelqu'un qui a pas forcément...
Oui, mais je pense qu'il faut savoir communiquer. Moi, par exemple, quand je suis arrivé sur le site et que j'ai vu ça, bon, j'étais à 3 jours de la fin. Et oui, non, forcément, je suis d'accord. Je force un peu les traits. Je suis vraiment désolé.
C'est un mois, normalement.
Mais oui, je sais bien. Mais c'est vrai que avant d'aller sur la plateforme, je n'avais pas du tout connaissance de ça. Et je pense que c'est un manque de communication de la part.
Il y a un manque de communication de mon master.
C'est sûr que moi, après, alors moi, je viens de l'université d'Orléans, et ça, ils nous en avaient parlé quand on avait fait des journées de présentation de master. Les responsables du master recherche nous avaient prévenus en nous disant. Pensez déjà avant les résultats ou avant vos candidatures, faites-vous une liste des sujets que vous voulez faire et présentez-la sur mon master. Et en fait, c'était pas une question d'autonomie ou autre, c'était juste pour nous aider, nous aiguiller, dans le sens où beaucoup voulaient partir sur... J'ai plus les thèmes en tête, mais les professeurs avaient dit, ne partez pas là-dessus, c'est hyper bouchonné. Genre, il y a plein de gens qui ont fait ça dessus. Genre, le thème, il a été repris, rebrassé et tout ça, et vous n'allez rien apporter du tout. Mmh. Alors qu'il est réaiguillé sur un autre sujet qui potentiellement les intéressait encore, mais qui n'avait pas du tout été pris ou encore vraiment bien étudié. Et eux, ils partaient de ce principe-là, de les aider dans ce sens-là.
Oui, complètement. En fait, il y a un double tranchant là-dessus. Mmh. Et puis, ça dépend aussi de l'aide apportée par les universités. Ça dépend des universités. Ça dépend de comment ils...
Oui, je parle pour l'université d'Orléans.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Là, ils ont été plutôt cohérents là-dessus, mais ça dépend aussi de plein d'universités. En tout cas, merci à tous pour vos retours. On passe tout de suite en musique avant de vous présenter la chronique de Ludo sur la série Fleabag. À tout de suite.
Et place au morceau de Monsieur Fear.
Fac, écoute.
Non, mais
écoute ta fac.
Am I in love? Tell me, is this love? Or am I too afraid to end up all alone? Am I in love? Tell me, is this love? Or are you really just a shoulder I can cry on?
Open the door, I recognize Mr. Fear. I ask, what do you want? What do you want from me? He says, I wanna come home. Please take me back, my dear. His words go through my heart. In his arms I fall asleep. No. Blue sand, blue memories. She died, down over there. I ran from Mr. Fear. Let me go, Mr. Fear. Blue sand, blue memories. She Mr. Free. Let me go, Mr. Free.
Black t-shirt and white socks. I've been thinking about us. Oh my god, 4 o'clock. Didn't mean to wake you up, babe. I just need to talk. Need to get shit off my mind. It's time to let you go, but it's so hard to say goodbye. And when I push you away, I ask you to stay. Against your friends, you say okay. I guess that's my toxic trait. I push you away. Oh baby, please stay. And then somehow you say okay. I guess that's my toxic trait. Fuck.
Blue sand, blue memories. She died down over there. I went.
shoulder you can cry on.
Tu es lycéen ou étudiant ? Tu as peut-être le droit à une bourse ou à un logement du Crous. Pour le savoir, remplis ton DSE, ton dossier social étudiant. En gros, tout se passe en ligne, ça se fait en quelques clics, tu fournis les bons papiers et hop, en 5 minutes, c'est plié. Alors si tu veux toucher une bourse dès le mois de septembre et pouvoir demander un logement en juin, remplis vite ton DSE avant le 31 mai. Toutes les informations sont à retrouver sur jedemandemabourse.lescrous.fr. jedemandemabourse.lescrous.fr.
On est de retour sur l'émission Écoute ta fac et aujourd'hui on passe à l'instant culture de Ludo.
Et oui, bonjour.
Tu as choisi de nous parler de la série Fleabag, une série à la fois dramatique mais aussi humoristique.
Tu m'as fait peur.
Oui.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une longue recommandation culturelle et un peu en avance en vous parlant de la série britannique Fleabag. Alors, la série est écrite par la créatrice et scénariste Phoebe Waller-Bridge, peut-être que vous connaissez, basée sur son one-woman show éponyme, et dont elle incarne le personnage principal, donc Fleabag, soit sac de puce en anglais, qui était le surnom que lui donnait littéralement sa famille. On peut donc dire que cette série est son bébé, et mes amis, quel bébé. Fleabag, c'est le genre de série qui, à coup sûr, vous manque une fois terminée tellement c'est génial. C'est drôle, mordant, sensible, féministe et terriblement contemporain. Fleabag, c'est le genre de série qui crée, je crois, une secte pour quiconque l'a vue et fait partie de leur série préférée. Alors la série s'étale sur 2 saisons de 6 épisodes de 25 minutes dans lequel on s'intéresse au quotidien d'une londonienne lambda de 30 ans, propriétaire d'un café absolument vide qu'elle avait ouvert avec une amie désormais décédée suite à un accident. Et notre héroïne essaye, contre vents et marées, de continuer à avancer dans la vie. Et qu'est-ce qu'elle galère ? Fleabag fait face à elle-même, ses travers, ses échecs, son passé, ses mauvaises décisions, des relations familiales chaotiques et des envies sexuelles insatiables comme façon de s'échapper. Alors ça semble déprimant dit comme ça, mais la série brille par son humour et à ce titre avec un comique qui intervient souvent et assez original. Fleabag, comme échappatoire, n'hésite pas à briser le quatrième mur pour s'adresser directement au spectateur face caméra et dire tout ce qui lui passe par la tête, toujours avec une pointe de sarcasme. Et ce, même au beau milieu d'une conversation avec un autre personnage qui n'a bien entendu pas conscience de ce qu'elle fait. La série regorge d'imagination par des dialogues ciselés, millimétrés et aux mimiques extrêmement communicatives de Phoebe Waller-Bridge. Fleabag s'impose tout simplement, salué par la critique et par les spectateurs, comme l'une des meilleures comédies de ces dernières années. Ce statut est également assuré par un sens du rythme et de la répartie que très peu de shows peuvent revendiquer. Chaque épisode est en effet un moment hors du temps, un moment Nutella, comme dirait Chris, que l'on prend du temps à savourer, dans l'espoir qu'il dure plus longtemps. Notez toutefois que sous cet aspect de comédie, Fleabag tisse en toile de fond une amertume et une dimension dramatique qui vous laissera un arrière-goût non négligeable. Quoi qu'à vrai dire, il s'agit plutôt d'un parfait mélange entre comédie et drame. Fleabag, c'est une ode au manque de contrôle, à la vie ratée qui nous met des tartes dans la gueule et qui s'enchaîne. Néanmoins, elle enseigne aussi qu'en dépit de ces moments, coexistent aussi des moments de tendresse dans lesquels le masque tombe et où se révèle notre fragilité la plus humaine. Une force de la série est également l'écriture de ces personnages, tout aussi nuancés, complexes et humains les uns que les autres. Je pense parmi eux à la sœur de Fleabag, Claire, interprétée par Sian Clifford, la belle-mère interprétée par la brillante Olivia Colman et le fameux prêtre de la saison 2, il faut voir la série pour la saison 2, incarné par le solaire Andrew Scott qui crève absolument l'écran. Bref, je pense que vous l'aurez compris, il est inutile de tergiverser. Fleabag est l'une des meilleures séries anglaises, voire l'une des meilleures comédies et des créations qu'il m'était donné de voir. Même si le show a su s'arrêter comme il fallait, je suis en manque de Fleabag et je donnerai beaucoup pour découvrir de nouveaux épisodes. Bref, préparez-vous à voir Phoebe Waller-Bridge apparaître partout sur vos écrans, car son talent devant et derrière la caméra ne fait plus aucun doute.
Merci Ludo. Antoine aurait quelque chose à nous dire.
Elle a levé la main.
Dis-nous tout.
C'est la bonne élève.
Je ne l'ai pas entendu dans ta chronique, mais on peut la voir sur quelle plateforme ?
Oui, vous pouvez la voir sur Amazon Prime, normalement. Okay. Moi, je vais la regarder, bien évidemment, illégalement.
Oh non, c'est...
Oh,
non.
C'est moche.
Ne faites pas ça, c'est pas bien.
T'as pas honte ?
Le site, donc sur Amazon Prime. Watch Stream.
Par contre.
HTTPS.
Par contre, je pense qu'on peut tous applaudir Ludo. Il a tenu 3 minutes 10. C'est la première fois qu'il dépasse pas le temps.
J'ai même supprimé des passages parce que je me suis dit, ah, c'est un peu trop long.
J'étais époustouflée.
Bravo, Ludo. On est fiers de toi. Tu grandis.
Si, non, ça a l'air très intéressant.
Merci, merci. Voilà, j'espère que vous aurez bien vendu la série. Regardez, c'est bien.
Merci, Ludo, pour ton instant culture. Oui, on espère que cette analyse vous a convaincu de regarder cette série.
Je la mets maintenant dans mes favoris.
Merci, Antoine.
Tu peux.
Passe de la culture à la littérature avec Chris. Aujourd'hui, tu voudrais traiter le sujet du sentiment amoureux et comment est-il présent dans les textes aussi bien antiques qu'à nos jours. Dis-nous en plus.
Bonjour à tous. Alors oui, nous ne sommes pas le 14 février, ce n'est pas le jour de la Saint-Valentin, mais cela ne m'empêchera pas de traiter d'un thème universel, ou plutôt d'un sentiment, sûrement le plus beau de tous, celui du sentiment amoureux.
Wow.
Et oui, ce sentiment qui a traversé les siècles et les civilisations, celui qui a fait rêver et inspirer tellement d'artistes, celui qui au quotidien nous accompagne dans nos peines et dans nos joies. Le philosophe Platon disait en son temps « Touché par l'amour, tout homme devient poète ». Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Car oui, le sentiment amoureux a toujours été profondément fantasmé, comme un sentiment qui se devait d'être profondément pur et honnête. Mais nous allons voir que celui-ci est traité de façon bien plus complexe à travers les âges. Si nous remontons au temps de la civilisation antique grecque, il est possible de reconnaître le sentiment amoureux dans quasiment toutes les histoires mythiques du monde grec. Mais c'est sur un premier écrit que nous allons nous arrêter un instant, celui de l'Odyssée, écrit par le poète grec Homère. Nous sommes après la mythique guerre et la chute de la cité de Troie. Guerre qui avait d'ailleurs commencé par un amour impossible entre le prince de Troie, Paris, et Hélène de Sparte, épouse du roi de Sparte, Ménélas. Hélène et Paris, alors tombés éperdument amoureux l'un de l'autre, décidèrent de fuir ensemble vers la cité de Troie, ce qui déclenchera l'un des conflits les plus importants de son temps. Enrôlé dans cette guerre et après avoir triomphé, le héros grec Ulysse décide de rentrer à Ithaque, royaume dont il est le roi. Son but, retrouver sa femme Pénélope et son fils. Cependant, ralenti par les caprices du dieu Poséidon, le chemin retour dura près de 10 ans. Une décennie qui va mettre à l'épreuve l'amour d'un homme envers sa femme et vice-versa. Pendant 10 ans alors, qu'Ulysse voyageait non sans peine, Pénélope repoussa toutes les avances pour rester fidèle à son seul amour. Ici, le voyage qu'effectue Ulysse est aussi une métaphore de la vie amoureuse. Il faut traverser nombre d'épreuves pour arriver à trouver l'amour de sa vie. Une personne qui nous fait nous sentir profondément bien. Ici, le véritable amour n'est pas offert. Celui-ci doit se mériter. Il doit être gagné après une longue lutte amoureuse. Effectuons maintenant un énorme bond en avant pour arriver à 2 œuvres qui ne furent pas écrites au même moment, mais qui conçoivent le sentiment amoureux quasiment de la même manière. Le premier roman est Tristan et Iseult, roman médiéval du XIIe siècle, et le second, Roméo et Juliette, roman du XVIe siècle, est écrit par William Shakespeare. En ce temps, l'amour doit être passionnel. Dans ces deux romans, la passion est éprouvée comme fatale, les règles sociales et morales sont transgressées et cet amour réciproque est malheureux. Dans le roman Tristan et Iseult, le filtre d'amour que prendra Tristan le rendra profondément amoureux d'Iseult. Dans ce roman, ce qui est mis en avant, c'est surtout la passivité qui prédomine. Toute notion de volonté est absente, les deux amoureux sont là sans être là. Ils subissent cet amour qui leur est imposé et qui se terminera dans un drame total. Ici, l'amour est perçu comme une fatalité qui n'est pas choisie et qui nous mène naturellement vers notre perte, comme ces deux amoureux désespérés. De leur côté, Roméo et Juliette ne font pas beaucoup mieux. Malgré l'amour profond qu'ils ont l'un envers l'autre, ce roman révèle les dangers de l'amour-passion, qui rendent celui ou celle qui en est la proie, à la fois passif et souffrant. Il retrace aussi les engagements maritaux, amour, fidélité pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort les sépare. Pour Roméo et Juliette, la mort est l'union suprême. C'est dans ces deux tragédies que la violence de l'amour nous touche pleinement. Qui n'a jamais été profondément amoureux d'une personne qui ne l'était pas en retour, n'est-ce pas Antoine ?
C'est vrai.
Ou qui a vécu une rupture déchirante. Les romans ont souvent dicté la manière dont nous devions aimer dans nos sociétés, nous imposant une vision unique de passion, de fidélité et remplie d'épreuves. Aujourd'hui, l'amour est traité de manière plus légère. Un sentiment comme celui de l'amour ne doit pas être étriqué par notre société ou encore notre façon de penser. S'il y a bien une chose qui est complexe, c'est l'amour. Ce sentiment parfois inavouable qui est pourtant recherché par la grande majorité d'entre nous. alors je serai plutôt mal placé pour vous donner des conseils. La seule chose que je peux faire, c'est de vous inviter à lire nombre de livres qui traitent de ce sentiment, comme par exemple « Orgueil et préjugés »,« La dame aux camélias »,« Phèdre » et bien d'autres. Et cela non dans le but de vous imposer une seule vision du sentiment amoureux, mais bien au contraire, le but est de vous aider à trouver votre propre conception de celle-ci. Je terminerai cette chronique avec Voltaire qui disait « À l'amour, tout miracle est possible ». Alors je me tourne dorénavant vers vous autour de la table avec cette question. Avez-vous une conception propre de l'amour? Et si oui, quelle est-elle?
Moi, je suis amoureux de toi, là, en tout cas.
Ouais. C'est bon, j'ai réussi ma chronique, alors.
Waouh.
T'as pompé ça sur quel livre?
Eh non.
Sur quel chat GPT
Non, moi, je travaille, moi.
Oui, moi aussi.
Oui. Non, on voit comment tu passes. Non,
allez, c'est bon.
Antoine, c'était une expérience scientifique.
La conception de l'amour, ça va être compliqué à dire en une minute, là.
Ouais, mais si tu devais résumer ce beau sentiment gay pour toi.
Tu connais, toi, le...
Wow, ah, j'avais vu une merveilleuse citation sur l'amour, je m'en souviens plus.
Quelque chose déjà de très personnel à chaque individu qui ne s'exprime pas forcément via des mots. Je crois qu'on a toujours déjà des difficultés à l'exprimer avec des mots. D'ailleurs, c'est pour ça que le mot « je t'aime » existe finalement, parce que c'est un mot qui à la fois veut tout et à la fois rien dire. Mais non, là je sèche, je t'avoue. Il faudrait que je prenne un petit temps pour écrire un petit poème. Peut-être qu'Antoine saura mieux que moi, hein.
Antoine, il connaît l'amour. Il connaît grandement l'amour.
Des difficultés et des galères, finalement.
Je suis en train de vous chercher.
Non, mais surtout les difficultés.
C'est à la fois des difficultés et des galères, mais...
Vous avez de la chance qu'on soit à la radio, parce qu'il y aurait des insultes qui auraient fusé depuis un paquet
Dis-nous,
de temps.
Dis-nous, Luna, ta propre conception.
Je rejoins Ludo sur le fait qu'elle est personnelle à chacun, en tout cas. Et que cette conception aussi, elle se transforme au fur et à mesure du temps via les personnes qu'on rencontre, sur ce qu'on préfère au final, ce qu'on voudrait, sur nos envies, sur notre idéal en tout cas, ou peut-être aussi à l'inverse, la déconstruction d'un idéal aussi qu'on aurait pu nous imposer via l'éducation. Je pense notamment, surtout pour les petites filles avec les Disney, etc., cette vision de l'homme idéal, du chevalier qui arrivera, qui nous protégera, etc., l'idée du prince, enfin, le mythe du prince charmant, etc., qu'on se rend compte en fait que dans la vie réelle, non, il n'existe pas. Et cette déconstruction, en tout cas, imposée par, enfin, infusée par la société, etc., et pour se faire une conception aussi à soi-même qui correspond à nos attentes, à nos envies. Et qui respecte aussi surtout la personne comme les autres aussi, bien sûr. Toujours avec du consentement.
Et oui.
Bien sûr.
Antoine, toi, grand spécialiste de l'amour.
Du consentement.
Dis-nous tout.
Je vais finir en taule avec vos conneries. Je rejoins totalement Luna sur ce qu'elle a dit. En fait, je pense qu'au bout d'un moment, avec les expériences, on commence à se rendre compte de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas, ce qu'on attend de la personne en retour, et de savoir vraiment ce qu'on veut que la personne nous apporte. Et pour moi, ça arrive avec les différentes expériences que tu peux avoir au cours de ta vie. Et j'étais tombé sur une citation que j'ai trouvée qui, pour moi, résumait un peu ce que pouvait être l'amour. C'était une citation de Marguerite Yourcenar qui avait dit « L'amour est un châtiment, nous sommes punis de n'avoir pas pu rester seuls ». Et j'ai trouvé que... Ouais, j'ai trouvé ça très joli et je me suis dit « ça résume parfaitement l'amour ».
Oui.
Il y avait pas de chute, d'accord.
Chris, en fin de compte, est époustouflé.
Elle a dit, je suis sans voix.
Voilà. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut, vivre sa propre vie amoureuse et avoir des expériences pour savoir où est-ce qu'on a proprement merdé, où est-ce qu'on a mal fait, et justement ne pas recommencer à l'avenir.
Oui, quand je disais, on apprend de l'autre, mais aussi de nous.
Oui, de soi-même aussi. Je pense que c'est la façon dont on s'est comporté dans nos couples.
Dans tout type de relation.
Je pense que c'est bien plus complexe dans celui-ci. Le sentiment amoureux est bien plus complexe, c'est bien plus dur, il nous touche personnellement d'une façon.
Oui, intimement.
Voilà, c'est une histoire vraiment très dure. Je pense que c'est l'histoire de l'humanité avant tout, c'est certain. Mais avoir notre propre conception de l'amour et trouver un certain équilibre, je pense que c'est ça dont on doit chercher la vraie définition.
Oui, l'équilibre surtout entre notre vie personnelle, notre vie professionnelle, etc.
Oui, et puis avec l'autre personne aussi.
Deal un peu avec toutes les formes de relations, etc. En tout cas, merci pour vos partages. On passera au jeu de Nico après un peu de musique.
Je crois que c'est maintenant le jeu de Nico, non?
Bah, on pouvait pas faire maintenant plutôt? Vu le temps qui court.
Comme tu veux.
Ouais, comme tu veux.
Je trouve qu'on a le temps.
Ouais, si t'as le temps, bah,
la... parce que j'avoue que la prochaine musique a fait 6 minutes.
T'en as pas une autre?
Ah, ouais, non.
On fait maintenant.
On fait maintenant.
Et bien écoute, on passe tout de suite.
Allez,
c'est parti.
Il a l'air d'être si impatient.
Je suis impatient parce qu'en plus, on est dans la continuité des deux zigotos d'avant.
Je ne peux pas le refuser.
Après les séries, les littératures, on va passer au cinéma.
Ah.
Et voilà. Bon, mon jeu.
Donc il n'y a qu'un jeu, on ne peut pas choisir.
Il n'y a qu'un jeu parce qu'on n'a pas...
C'est fini, c'est la dictature.
Voilà.
Il a eu la flemme.
La démocratie revient cette prochaine, promis. Et on va jouer au qui sait. Attention, jingle.
Mais c'était qui? Mais c'était qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui?
Et moi?
J'en étais sûr.
C'était sûr. Alors, aujourd'hui,
moi aussi,
j'ai décidé de faire le jeu où c'est des acteurs qui vont chanter, mondialement connus ou français, très connus. Il faut trouver qui c'est qui chante.
Ok.
Vous êtes prêts? Est-ce qu'il faut expliquer à Antoine ou pas comme il revient?
Non, c'est un mec qui connaît tout.
Ouais.
Il va apprendre sur le terrain.
T'as entendu les règles,
oui,
Antoine?
De toute façon, à chaque fois, je vous torche au jeu.
Ok, là, il faut trouver les chanteurs qui chantent. Okay. Les acteurs qui chantent.
Ça triche.
Bah, tu nous l'avais proposé la semaine dernière.
Ouais, comme oui, j'ai proposé la semaine dernière. Et on le fait aujourd'hui. Okay. Vous êtes prêts? Premier son.
Allez, ça part.
Et on répond à la fin. Alors, qui est cette grande actrice qui chante?
Ah, mais c'est... ah, c'est ça le jeu que j'avais.
Non, mais on s'est fait... Ah, entre Ludo et Antoine, c'est magnifique.
Non, parce que pour avoir les coulisses, Ludo me tape sur l'épaule et là, il écrit sur ses notes, c'est quoi le jeu? Trois petits points.
On s'est fait interrompre en plateau et j'étais pas concentré.
J'ai expliqué les règles deux fois.
Je sais, mais on,
non,
je
mais bon, du coup, c'est qui? C'est qui?
Moi, je sais.
Faut trouver, vas-y.
J'ai une question. Est-ce que c'est une... ça peut être une IA ou c'est forcément...
Non, c'est que les des acteurs qui
chantent. Non, ça, c'est dans ABBA.
Oui, c'est réel.
Oui, mais on ne demande pas le titre.
Oui, mais attends, attends, parce que le nom va me revenir.
L'actrice, c'est mondialement connue.
Oui, je sais. En plus, c'est mon actrice préférée. Ah, c'est la blonde avec les cheveux bouclés.
Alors,
super, merci.
Je vois très bien.
Une blonde avec les cheveux bouclés?
Oui, elle joue la mère dans ABBA.
T'as trois.
C'est le moment du volet.
Elle joue sur la route de Madison.
Meryl Streep.
Oui, Meryl Streep.
Oui, bon, je l'avais. J'ai juste.
Bravo.
On a le point à qui là?
À Ludo.
Ouais, d'accord.
Prochaine question.
0,5.
Prochaine.
C'est moi qui donne le nom.
Je suis d'accord avec toi, Ludo.
Oui, mais je t'ai montré qui c'était.
Incroyable.
Prochaine proposition. On y va. Ça rap. Sachant que si vous écoutez les paroles, elle a dit un indice très gros dedans.
Oui, oui,
Penelope Cruz?
Non, elle a dit le nom d'un film ou série qu'elle a joué dedans dans les paroles.
Eva Longoria?
Et oui, c'est Eva Longoria.
Elle
a dit Desperate Housewives.
Oui,
Desperate, moi, pour moi, elle avait un accent un peu hispanique dans son...
Mais en même temps, oui, elle parlait espagnol.
Elle est d'origine mexicaine.
Mais c'est pour ça, du coup, c'était pour moi soit Penelope Cruz ou Eva Longoria.
Bah voilà. Bah, attends, c'est Eva Longoria, t'as trouvé, bravo.
C'est mexicain et espagnol.
Arabe bien, hein. Arabe mieux que Naps, hein, Luna.
Oh là là, enfin, c'est ton avis.
On
passe sur le prochain.
Mais en fait, j'attendais que Ludo m'aide.
Non, mais attends, il fallait que je réagisse. Si, je te parlais pas de qui.
Non, Ludo, il est littéralement en train de regarder des mangas sur son ordinateur.
Il est bloqué sur Hong Kong, je sais pas, il a un décalage horaire.
Sur Hong Kong,
au troisième son. Troisième actrice qui chante.
Bonjour.
Ah oui, moi aussi.
Ah, mais si, je sais en fait.
Ah, bah si, je...
Attends, mais vous connaissez le nom?
Alors,
Emma Watson?
Emma Watson,
ouais.
Ah, bravo Antoine, t'as
non, 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 elle a pas levé la main.
Ah, ouais, ils l'ont dit. Luna et Chris l'avaient avant moi.
Ok,
mais...
on l'a eu en même temps tous les deux.
Je donne à Chris, désolé Luna, mais si tu donnes pas Chris, il va bouder donc je donne à Chris.
Bon bah, oh là là, oh la ratio.
Prochain. Ah, peut-être plus dur là, c'est peut-être plus technique le prochain, vous êtes pas prêts. Pour ça, il y a que des femmes qui chantent. Quatrième femme aussi.
Mais il y a pas d'homme.
Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Una
mattina mi sono alzato e ho trovato l'imbassor.
Ouais, ça doit être une des actrices de la série.
Ouais, moi je connais pas leur nom.
Tokyo ou Nairobi, on va dire.
Passons le prénom.
Non, moi j'ai rien.
Actrice, t'as dit Tokyo ?
Tokyo ou Nairobi ? Ouais,
oui, c'était Ursula Corberon qui joue Tokyo.
Ah,
oui.
J'ai pas le nom.
Ouais, c'est un peu compliqué. Je voulais mettre un peu de difficulté dans le jeu.
J'ai dit Tokyo, ça passe.
Vous êtes pas pour le prochain ?
Oui. Hotel.
Oui.
C'est le ministre, ça ?
Mundaja, Mundaja.
J'étais obligé.
Oui, voilà.
J'étais obligé. Alors, c'est, qui c'est?
C'est Woody Allen. C'est Madame Woody Allen. Ouais.
Quelqu'un a film ou a joué dedans?
Notre chère ministre. Okay. Bon, elle a joué à Wimbledon, voilà.
Elle a pas joué longtemps ministre de l'Éducation nationale.
Et on a les chiffres, attention.
Non, mais elle était tennisman, donc.
Tennisman. Oh.
Si c'est une grande.
Si, elle était très forte.
Elle était chez les jeunes.
Alors
elle est pas passée au niveau supérieur avec les adultes.
Je crois qu'elle a une petite carrière et tout quand même.
C'est déjà bien.
Petite carrière, mais avec les jeunes.
Elle était présidente de la FFF quand même.
Oui, présidente, mais elle n'était pas joueuse.
Prochain titre.
Ils m'implorent, ils m'adorent, mais pourtant moi je les ignore, tu le sais. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne.
Alors elle est française, donc ça peut vous aider.
On dirait que le dos a une proba.
Non, non, je vois, okay. Mais je vois pas.
Personne idée.
Très clair.
C'est un monument du cinéma français.
Catherine Deneuve.
Ouais, Catherine Deneuve, ouais.
Putain, c'était Catherine Deneuve.
Putain, ouais, dès qu'il a dit monument, je me suis dit.
Ouais, pour moi, il y avait que elle.
Ouais, moi aussi, ouais.
Non, il y a Johnny, il y a plein de monde comme
oui,
ça.
Mais en général, quand tu dis monument,
quand
c'est
tu dis monument
quelqu'un
du cinéma français, femme, Catherine
c'est quelqu'un
Deneuve.
D'ancien en général.
D'accord,
tu vas
bravo,
pas dire
bravo.
Ça pour une actrice récente.
T'as raison.
C'est vrai, vous êtes.
C'est l'intervention, Chris.
Big et pour
Big brain.
Prochain, peut-être plus facile.
Les termes.
Peut-être niveau Chris,
c'est bon. T'as raison. Noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. We're fearless, and my bees freezing up all the flag. Men in black. On a une invitée surprise qui va nous dire sa réponse.
Will Smith.
Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Ouais.
Allez hop, Smith, ouais. Dommage, Louane.
Oh, laissez-la parler.
Will Smith, Men in Black.
Super. Merci Louane.
Bravo Louane.
Merci.
Louane, bravo.
Elle a eu la flemme de participer cette semaine, juste comme ça.
Bah, vu ta couleur. Ouais, bon, ça arrive.
On n'entend pas très bien, malheureusement.
On n'entend pas.
Ouais. En plus,
elle
a perdu
un peu du temps.
Mais tant mieux, tant mieux.
Tant mieux.
Allez, on va passer à.
On a littéralement le même planning. On est dans la même promo.
Et encore.
Il n'y a pas que la vie.
Et encore, nous, on va en cours, nous.
Ah, le sentiment amoureux.
Prochain son.
Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi,
deux.
Me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera.
Alors, ça vient du coup de Tout ce qui brille et c'est Géraldine.
Wow. Nakache.
Nakache.
Nakash.
Ouais, exactement. Et sinon, c'est Leila
Bekti.
Ouais.
Nico est en train de lui donner les noms.
Même avec les réponses sous les yeux, elle arrive pas.
Hein.
Ouais, j'avoue. C'est
oh là là, elles sont là.
C'est terrible. C'était Géraldine
elles
Nakash
sont pas
et Leila
Bekti.
Je savais pas du tout que c'était les deux.
Nico lui a vraiment tourné l'écran pour lui montrer la réponse. Hein.
Mais la présentation qu'elles ont fait toutes les deux, elle date pas d'il y a... peu de temps, enfin genre en mode il y a un an,
il y a 2011 le film.
Ah,
hein.
Non, si. Okay.
Ah ouais, ah ouais.
2010, 2011.
Ah oui, donc c'était
il y a
2-3
ans.
Hein. C'était leur grand premier rôle à elle. Après, il y a 2-3 ans, ils ont fait un deuxième film ensemble. Ils ont fait Céline Dion, J'irai tuer Eras, c'est avec Patrick Hempstead où elle chante Céline Dion dedans.
Et elle joue dans La Flamme. Voilà, moi c'est vraiment mes rêves.
Ah, t'es référence.
Ouais, merci, j'entends quand même, merci. Prochaine et dernière, attention. Plus facile, je pense. Et en plus, il me ressemble. Driving me insane. All my life been so polite, but I'll sleep alone tonight. 'Cause I'm just kidding, anywhere else I'd be take. Is it my destiny to live? Ryan Gosling, l'amour de ma vie,
oui,
dans
voilà,
Barbie. Ouais, est-ce qu'on valide Louane?
Ah, il te ressemble.
Moi, je propose de
bah,
ne donner aucun point à Christian Guéret, car
non,
il ne les mérite pas. Voilà.
En plus, il est méchant avec l'animateur.
C'est moi qui ai dit la bonne réponse.
Non, mais
c'est
mon
point.
Non, en gros, tous les points de Christian vont à toi, donc tu gagnes un point.
Ah, mais il y a vraiment la plaque et Louane à côté, on est d'accord. Elle est vraiment à côté de la plaque.
Ouais, non,
mais. Alors Louane, je trouve que t'as fait une meilleure intervention que les trois mecs en une émission, mais bon, voilà.
En tout cas, Ludo pète les scores. Hein.
Ouais, Ludo a pété les scores, mais Antoine a gagné quand même.
Le nerd.
C'est quand même Antoine qui a gagné. Antoine a trouvé 4 réponses en 9.
Mais comment ça? C'était quoi les 4 réponses qu'il a trouvées?
Bah, Catherine Deneuve, non, on va pas Meryl Streep.
Meryl Streep, j'y trouve aussi un peu quand même.
Oudéa Castera.
On pas trouvé, mais Oudéa Castera, j'ai dit. Mais non, c'est moi qui ai dit.
Ok, vous avez gagné, c'est bon.
Tous les deux.
Voilà, laissez voilà.
Ah, il sert de la main gauche.
Voilà. Oui, bah, bon. Je suis gaucher.
Bah, merci à tous d'avoir joué, merci à Louane, merci à l'équipe au plateau, merci à tout le monde.
Merci Nicolas.
Et je te redonne la parole, Luna.
Merci Nico. On va passer bientôt donc à la fin de cette émission. Et avant, nous passons donc à la recommandation de la semaine de nos chroniqueurs. Et je me tourne vers vous tous. Quelle œuvre littéraire, cinématographique ou autre voulez-vous nous faire partager?
Quelqu'un en a un là tout de suite?
Alors moi j'irai sur la simplicité, c'est Dune.
Oui.
Dune est incroyable. Je suis allé le voir, oui, Dune 2. Tout particulièrement, je suis allé le voir le week-end dernier et c'est vraiment magnifique. Alors vous allez partir un petit peu en voyage dans la galaxie, où vous allez arriver sur une planète désertique.
T'as le nom?
Oui, oui, non, mais...
J'ai les chiffres, monsieur.
Les chiffres aussi.
J'ai les chiffres.
Non, mais on m'interrompt, là, comme ça.
Donc, Dune 2 et Chalamet Cassidy.
Et je veux juste préciser qu'il y a 2 900 000 entrées pour Dune 2.
Mais c'est un carton,
c'est énormissime.
On vient de le couper, mais...
C'est en tête du box-office français, et ça se rapproche donc de bientôt record. 3 millions d'entrées. Après seulement 3 semaines... présence au cinéma.
3 semaines, mais il mérite ses 2 millions. Pour moi, il mériterait même plus.
Ça fait
plus, mais...
environ 1 million par semaine, donc tranquille.
C'est ça.
Donc, est-ce que je peux reprendre ou pas?
Parce que c'était ça.
Non, parce que bon, c'est pas grave, mais allez-y.
T'as fait l'intro, t'as l'habitude de faire des introductions à son nom.
Donc, laisse-moi. Donc, on revient sur la planète, une planète désertique, sur Arrakis, où évolue le peuple des Fremen. Et là, on retrouve Paul Atreides, qui est donc le seul survivant de sa famille, et il est là pour se venger de la famille qui a exécuté...
Sa mère aussi. Mais...
Comment?
Sa mère survit
oui,
aussi.
Oui, il y a sa mère, mais... Vous comptez m'interrompre à chaque fois ou
Allez,
et voilà, bref, allez voir le film, il est vraiment magnifique, l'histoire est vraiment très très belle et puis les images sont vraiment incroyables. Vous allez pouvoir notamment voir des paysages du désert qui sont vraiment incroyables et puis le jeu d'acteur est incroyable, Timothée Chalamet, Zendaya, Léa Seydoux, etc.
Très bien, merci Chris. Est-ce que Ludo, par exemple, une recommandation
Ça, elle se voit en plus. Hein.
Moi, j'en ai déjà fait une longue, donc si vous voulez prendre le pas. Mais oui, je peux en faire une. Moi, en ce moment, il y a un truc que j'aime pas mal. Bon, évidemment, je suis un gros nerd. Je vais parler d'animé, voilà, pour mes fans d'animé derrière l'écran. Mais c'est toujours très intéressant. Oh là là, allez, ça y est. Ça s'appelle Free Ren. Et justement, ça pourrait vous plaire parce que ça va totalement aux antipodes de ce qui se fait un peu dans les mangas, on va dire, un peu très connus du moment, où il y a un peu du combat, il y a de la baston, etc. Free Ren, c'est l'histoire d'une elfe, simplement, qui vit depuis des millénaires et dont on va suivre la vie, mais après qu'elle ait fini un peu la quête finale, c'est-à-dire battre le grand méchant, etc. On va suivre sa vie après. Il y a tout un aspect de contemplation à son image, donc d'une elfe qui vit 1000 ans, qui a du mal à s'attacher à la vie humaine, vu qu'elle n'a pas du tout la même temporalité que les autres personnages. C'est beaucoup de philosophie, beaucoup de contemplation qui amène un peu à se reposer, à prendre son temps, et qui enseigne sur l'amour, sur la mort, sur les regrets. Et c'est vraiment top, ça fait un carton, alors que de base, ça n'avait pas spécialement plus d'intérêt qu'un autre. Et c'est actuellement le meilleur animé qui a la meilleure note de tous les temps sur un registre. Donc ça prouve que ça a plu, ça a été salué par la critique. Voilà, même si vous n'aimez pas les animés, je sais que parmi vous, vous pourrez aimer. Mais bon, ça m'étonnerait que vous regarderez. Mais bon, voilà, je vous recommande parce que c'est vraiment, vraiment bien et c'est très original et c'est très frais.
Moi, je regarderai.
Merci Christian.
À nous faire partager.
Oui, c'est le livre de Jean Birnbaum qui s'appelle Le courage de la nuance.
Il a pas lu.
merci. ou dans ce livre, je lis.
Oui,
Jean Birnbaum veut apporter du réconfort à toutes les femmes, tous les hommes qui refusent la brutalisation de notre débat public et qui veulent préserver l'espace d'une discussion aussi franche qu'argumentée.
Et il s'appuie notamment sur des textes de Albert Camus, George Orwell, Anna Arendt, Raymond Aron, Germaine Tillion ou encore Roland Barthes. Et il est contre cette forme de brutalisation où les gens en fait recherchent plus un ennemi qu'un interlocuteur avec qui débattre, et où ils posent leurs arguments comme des faits et ils n'acceptent pas la contradiction. Chris, je peux te le proposer, tu n'aimes pas le débat, mais ça pourra t'ouvrir à quelque chose.
Oh, la balle perdue.
Qu'est-ce que t'en as pensé du livre ?
Eh ben écoute, il est très bien, il est actuellement sur ma table de nuit et j'en suis à la moitié pour l'instant, j'en suis très content.
Oui, la moitié, il y a 100 pages, alors qu'en vrai, il y en a 500.
J'ai pas dit que j'étais à 100 pages, j'ai dit que j'en étais à la moitié.
Est-ce que Nico, tu aurais une recommandation de ton côté ?
Alors moi j'ai une recommandation, mais apparemment d'après Luan, j'ai fait la recommandation la semaine dernière, c'est la série Fury, avec Marina Foix
et Cassio.
J'ai fait la semaine dernière. J'ai Baron Noir, vous conseillez, je suis en train de le regarder pour la cinquième fois si vous voulez, c'est une série politique.
Cinquième fois ?
Oui, mais c'est la meilleure politique.
Ça fait beaucoup.
En vrai, j'ai regardé deux fois et je pense que c'était, je vais me rattraper une troisième fois.
C'est ça, avec Kadmerad, et vraiment, c'est la meilleure série politique ever. Et pour moi, ils ont prédit l'avenir, c'est des génies sur pattes, c'est vraiment des génies.
Pas mal, c'est français. j'ai le même, j'ai le même.
Et toi, Luna, as-tu une reco?
En un mot,
histoire qu'on te coupe pendant ta reco.
Compliqué. Non, je vous conseille bien évidemment, l'émission sur Rhinocéros, enfin de Blast, sur Robert Hersant. C'est un député qui a construit un empire médiatique très important dans les années 80. Et cette vidéo retrace un petit peu toute sa vie, etc. Et sur l'affect que sa position, etc., a fait sur le paysage médiatique. Donc, je vous conseille fortement. Pour apprendre un petit peu plus l'histoire des médias et pourquoi le paysage médiatique est comme il est en France.
Ok, merci.
Alors je dirais Socrate.
Non. Ça y est, lui, il a lu l'intro de Socrate.
En tout cas, c'est la fin de cette émission. On se retrouve avec la même équipe jeudi prochain. Ne manquez pas l'émission Écoute ta fac tous les lundis, mardis, mercredis et jeudi de midi à 13h. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée à toutes et à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.